Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute! Bonjour, ici Célia Héron, coproductrice de Brise-Glace. Avant de plonger dans ce nouvel épisode, une mise en garde. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui peuvent heurter. Il sera question de dépression et de pulsions suicidaires, deux tabous dont nous parle cette semaine Loïc, trentenaire lausannois.
Ça peut être difficile à comprendre, mais ça demande quand même passablement d'efforts de se dire « je vais sortir de mon lit, je vais me saisir de cette boîte de médicaments, je vais faire un nœud, poser une chaise, je vais trouver un train sous lequel sauter, je vais trouver un pont, etc. » Est-ce que je laisse une lettre? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Est-ce que j'explique? Est-ce que j'explique pas? Qu'est-ce qui fera le plus souffrir? Tout ça, c'est des points qui font qu'en fait, dans les pires moments de la dépression et dans les moments les plus suicidaires, c'est pas forcément les moments où le risque de suicide est le pire.
Loïc, il a les cheveux longs, une petite barbe, et il arrive en short et débardeur, canette de bière à la main à 14h. En regardant trop vite, on pourrait le prendre pour l'incarnation du cool, et on est à mille lieues d'imaginer que l'alcool est une béquille pour se donner du courage face à la dépression alors qu'il lutte depuis des années contre l'appel de la mort. Dans cet épisode de Brise-Glace, il nous parle de cette souffrance aux multiples facettes, malgré les anxiolytiques, malgré les antidépresseurs, trop souvent confondus avec la déprime ou le petit coup de blues. Il nous invite à interroger nos réactions impatientes face aux accidents de voyageurs, aux maladies psychiques en général et aux pulsions suicidaires en particulier. Si, comme Loïc, ces pensées vous traversent parfois, vous n'êtes pas seul. En Suisse, des numéros existent à votre écoute 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le 147 tend la main aux jeunes et le 143 épaule les adultes.
Je suis né à Yverdon, dans une famille d'ouvriers, tout ce qui est plus normal. Mais je sais pas, mon enfance a pas été... c'est un peu difficile à dire, elle a pas été infernale. Il y a sans doute un milliard de personnes qui ont eu des vies bien pires que la mienne. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu de l'affection, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un moment où tout à coup, je me suis mis dans la tête qu'il faudrait que je sois médecin, et puis que c'était ce que je voulais faire, etc. Ça a bien résonné avec ma famille. On m'a pas mal poussé dans cette direction. Et puis, je crois que là où vraiment ça a commencé à devenir compliqué pour moi, c'est justement cette étape du gymnase où je me suis retrouvé avec énormément de monde qui avait, sinon les mêmes capacités que moi, des meilleurs. Et du coup, j'en suis venu à la conclusion que finalement, la médecine, ça le ferait pas vraiment. Et puis, je crois que c'est un peu là que ça a commencé à vraiment me poser des questions existentielles. Avant ça, c'était un peu la vie. J'allais à l'école, je savais, j'étais dans ma famille, on m'avait dit que je devais être médecin, je travaillais pour. Et il n'y avait pas vraiment de questions. Puis à partir de ce déclic où je me suis dit, tiens, en fait, ces études-là, c'est peut-être pas fait pour moi, ça a commencé à engager plein de réflexions sur... Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? J'avais une bonne synergie avec ma maîtresse de classe au gymnase, qui était prof de français. Puis il se trouve qu'on a lu Camus et Sartre, des existentialistes. Et ça mettait pas mal le doigt sur quelque chose d'assez profond que j'avais pas forcément réussi à mettre en mots ou à reconnaître comme quelque chose qui existait en moi, parce que quand on n'a pas les mots, c'est des réalités qui sont très, très volatiles, on a de la peine à les voir. Puis là, tout à coup, il y a Sartre qui parlait de ce personnage qui vivait dans un espèce de décor en papier pâte et puis qui n'arrivait pas à mettre de sens dans son quotidien. Et à partir de là, C'était un peu sans retour. J'ai été sans arrêt pris dans ces questions-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je le fais? Comment? Est-ce que ça mènera à quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et puis du coup, une espèce de rencontre comme ça avec la littérature, où je me suis dit tout à coup, ah tiens, je retrouve pas cette réflexion-là, je retrouve pas ces mises en question dans mon entourage proche. Et puis c'est vrai que la question du suicide, elle est relativement présente, surtout au 19e siècle, surtout chez les Russes. Enfin, il y a énormément de littérature autour de cette question existentielle. Et du coup, je me suis pas mal renfermé autour de ces questions et de ces livres. Ça a mis une grande barrière entre un peu moi et les autres. Tout à coup, c'était plus vraiment immédiat. Puis ça a évolué dans cette direction.
À cette époque-là, vos parents, s'en sont rendus compte? Ont essayé de vous sortir de cette bulle ou pas du tout?
Malheureusement, je pense que mon attrait pour les livres, ça leur paraissait vraiment comme quelque chose de chouette, en fait. C'est-à-dire que ouais, j'aime lire, donc je suis intelligent, donc je vais faire de grandes choses, un peu cette trajectoire-là. Ce qui a en fait que un peu redoublé cette pression que, en partie, je me mettais moi-même sur mes objectifs de vie et ce que je devais faire. Du coup, en tout cas, dans un premier temps, je pense pas. Au contraire, c'était plutôt encouragé. Je pense que j'aurais aimé plus de confrontations dans ces moments-là, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a juste eu du silence et de l'indifférence, puis on s'est pas mal éloigné.
Et vos amis à l'époque?
Pareil, j'étais au gymnase, donc ça tournait énormément autour de la fête, des premières relations sexuelles, des groupes de musique de l'un et de l'autre, etc. Et tout ça me paraissait infiniment nul et inintéressant, mondain, vain. J'avais besoin de discuter de pourquoi t'es là, pourquoi je suis là, on fait quoi, on est qui. Et du coup, je me suis mis un peu cette parure d'intellectuel, de mec qui voit à travers un peu le filtre social. Donc, je suis allé à l'Uni et puis ben. Ce que j'ai toujours apprécié faire, c'est lire de la littérature et de la philosophie, donc je suis parti en français et en philo. Et puis, ça a été une période assez agréable parce que j'ai rencontré plein de personnes qui avaient un peu ces mêmes questionnements que moi, qui prenaient pas un peu pour acquis tout ça, toute cette banalité mondaine, etc. Et du coup, ça m'a pas mal rassuré.
Est-ce qu'il y a à cette période-là des moments où vous êtes juste heureux? Et qu'est-ce qui vous rend heureux? Enfin, quelles sont les petites choses du quotidien ou de la vie qui vous apportent une certaine satisfaction malgré toutes ces questions?
Il y en a, hein, je ne vais pas mentir, évidemment qu'il y a plein de choses qui sur le moment font que waouh, ça vaut la peine, c'est chouette. J'ai eu des relations amoureuses notamment, et ça c'est vrai que ça a toujours été une béquille exceptionnelle. Mais au quotidien, disons, c'est vraiment. J'imagine les mêmes choses que tout un chacun, d'avoir un repas agréable avec quelqu'un qu'on apprécie, de faire une promenade au soleil, de voir un chiot, un petit chat ou un enfant jouer. Il y a toujours un moment où il faut rentrer chez soi, où les rues sont vides, où le téléphone sonne pas, où on a beau rafraîchir Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, et puis c'est toujours les mêmes choses qui apparaissent. Est-ce que c'est ça ma vie? Enfin, est-ce que je dois me contenter de ça? Est-ce que je peux me contenter d'être content quand je vois une fleur, d'éprouver du plaisir quand j'accompagne un enfant à l'école, de manger une bonne pizza avec des amis? Je pense que oui, je pense qu'il faut réussir à s'en satisfaire, mais personnellement, ça le fait pas. Ça le fait pas.
À quel moment est-ce que il y a une forme de fond qu'on touche, quoi? À quel moment est-ce qu'on se dit, bon ben, ça sert plus à rien de faire semblant, en fait, autant en finir?
Ben, moi, c'est arrivé relativement récemment quand même. Puis il y a un moment où on se dit, bon, ben, ça va, j'ai essayé. Rien, rien, rien ne me laisse penser que quoi que ce soit se passera mieux à mon prochain essai. c'est de la pensée magique de se dire ça. C'est alors dû à partir de ce constat-là de choix. Soit je fais quelque chose en ayant parfaitement conscience que c'est absurde et que c'est un peu un jeu de dés, que peut-être quelque chose en sortira qui sera cool, peut-être pas. Peut-être que ce sera dramatique pour moi et pour d'autres. Ou alors je me retire du jeu et puis j'aurais au moins pas eu à causer de la souffrance autour de moi. C'est-à-dire que, en tout cas, la souffrance que je causerai, elle sera limitée dans le temps et dans l'espace. Je meurs. Ça rend tout le monde triste. 3 semaines, 1 mois. Ensuite, on m'oublie. Peut-être plus longtemps pour mes parents. Mais enfin, il y a le contrepoids de tous ces arguments. Parce que vraiment, rationnellement, je vois zéro raison d'être encore ici à parler à ce micro ou à faire quoi que ce soit de mes journées. Mais le passage à l'acte, c'est quelque chose d'autre. Que fatalement, moi personnellement, en tout cas fatalement, quand je pense à la question du suicide sérieusement, tout à coup j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que ça va être une fois que je serai mort. Et la contemplation du vide, de essayer de s'imaginer ce que c'est que de ne pas avoir de conscience, étonnamment, c'est terrifiant. Et rationnellement, je sais parfaitement que c'est une représentation, parce que voilà, une fois qu'on n'a plus de conscience, on n'a plus de conscience, on ne peut pas souffrir. Mais de ce côté de la barrière, c'est terrifiant. Et on se retrouve dans un mélange de peur de l'au-delà, d'impossibilité à vivre la vie et de honte de pas oser faire le pas. C'est quelque chose de qui rend fou.
Jusqu'où vous êtes allé dans cette forme de planification ?
Dans ma tête, assez loin. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de façons de le faire. À l'heure d'Internet, il y a énormément de ressources sur quelle sorte d'arme privilégier, quel angle privilégier, est-ce que plutôt dans la bouche, sur la tempe, balle au cœur, attention au recul, est-ce que la pendaison est viable, comment faire le nœud, à partir de quelle hauteur, sauter d'un pont, à partir de quelle hauteur du pont est-ce qu'on peut être assuré de vraiment mourir, regarder les horaires de train pour savoir à quelle heure sont les passages aux heures les plus calmes pour pas être empêché, et les heures où il y a le plus de passages de train qui s'arrêtent pas en gare, essayer de viser plutôt un train de marchandises, parce que c'est vrai qu'un train de personnes, ben, ça va, disons, faire plus de victimes collatérales, même s'il faut bien avouer que les victimes collatérales dans ce genre de cas, c'est vraiment le dernier des soucis d'un potentiel suicidé, parce que voilà, quand on en arrive à vouloir se jeter sous un train, c'est qu'il y a une souffrance qui dépasse un petit peu mettre en retard certaines personnes au travail. Et voilà, évidemment que c'est pas le plan, c'est pas le projet d'une personne suicidaire, en tout cas c'est pas le mien de me suicider. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie de réaliser mon potentiel et puis de vivre les relations que je peux vivre. C'est juste que c'est trop compliqué, c'est trop de souffrance, c'est trop dur. Et puis, du coup, c'est un peu une lutte constante avec soi-même. Et ça passe par faire en sorte que ce soit pas possible dans les pires moments de prendre la mauvaise décision et puis de prendre la porte de sortie. Alors, ça a voulu dire pour moi rendre mon arme de service et puis me faire absoudre des obligations de tir pour l'armée. Ça a voulu dire m'assurer auprès de ma psychiatre avant même qu'on parle des questions suicidaires, de ne pas avoir de médicaments qui puissent entraîner une overdose trop facilement.
Vous étiez suivi par une psychiatre donc depuis longtemps?
Pas tellement, ça fait 2 ans à peu près que je suis suivi. J'ai eu un premier suivi au gymnase durant ma première crise à peu près. Mais ça a été vu comme voilà, une adolescence relativement standard, des doutes, des problèmes d'identité, etc. Puis du coup, après, je crois, 6 séances qui étaient prévues un peu pour justement tâter le terrain, voir ce qui se passait, on m'a demandé, bon, là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement voir votre famille et puis du coup, creuser un peu dans cette direction. Ou alors, vous me dites que ça va. Et puis on en reste là. Puis ben ça allait pas, mais d'une part j'avais pas eu l'impression que mon psychiatre comprenait vraiment mon problème, et d'autre part en parler plus largement avec ma famille, ça me semblait hors de question. Du coup j'ai décidé d'arrêter là.
C'était votre initiative d'être suivi?
Non. Je l'ai accepté volontiers, mais c'est mon père, sauf erreur, qui a proposé, justement parce qu'il voyait que ça allait pas et qu'il se sentait relativement impuissant, donc il m'a redirigé vers quelqu'un. Mais c'est un peu le double problème, à mon avis, de ces spécialistes. C'est que d'un côté, ça permet aux proches de se dédouaner un petit peu, en quelque sorte, de dire, ben, moi, j'ai pas les compétences, je vais te rediriger vers un professionnel. Alors que quelqu'un qui a des problèmes psy a énormément besoin, et peut-être surtout de présence, de rassurance, de ressentir qu'il y a un réseau qui est là pour l'aider à le soutenir, ou la soutenir. Donc c'est parfois un peu trop une solution de facilité d'avoir des professionnels, et puis moi je t'aime comme mon fils, et puis le professionnel il s'occupe de ta maladie comme un médecin s'occuperait de ta grippe. Puis dans l'autre sens, ben le problème que si le psy décide que ça va, que c'est pas grave, ben, il y a cette légitimité auprès de l'entourage de dire ben ça va en fait. Et puis du coup, ben là avec cette discussion de enfin avec cette conclusion que c'était relativement normal à l'adolescence de se rechercher, etc. Il y a tous ces stigmates un peu ageistes de dire ah oui, c'est une phase, ça te passera. On a tous été un peu déprimés à l'adolescence. Et du coup, j'imagine qu'il y a tellement de personnes qui passent à travers les mailles du filet comme ça, un peu par légèreté. On se retrouve à brasser des concepts comme ça psychiatriques alors que le vécu, il est complètement différent. Mon vécu. C'est comme on en discute jusqu'à présent, de dire que voilà, il y a des jours où j'arrive pas à manger, j'en vois pas l'intérêt, où j'arrive pas à me doucher, et où j'ai tellement peu d'interactions qui font du sens pour moi, que ce soit avec des choses ou des gens, que effectivement j'en viens à me poser cette question, mais combien de temps est-ce que je vais accepter ça, et puis pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça alors qu'il serait tellement simple d'arrêter? On se met à penser à la fragilité de l'être humain, enfin. On peut mourir avec tellement rien. Et il y a tellement de gens qui meurent tous les jours. Alors pourquoi pas moi? Vraiment.
Vous n'avez jamais essayé techniquement de mettre fin à vos jours?
Personnellement pas, non. J'ai pratiqué l'automutilation à plusieurs reprises. Ce genre de choses. Mais le problème, c'est que dans ma tête, c'est hors de question de faire une tentative de suicide. C'est-à-dire que je vais pas faire une tentative de suicide. Si je me suicide, c'est pour vraiment mettre fin à mes jours. Et du coup, dans les pires moments où justement je pourrais avoir ces comportements impulsifs, ben, j'ai un peu un bloc qui fait, mais là, t'es zéro en état de préparer un suicide digne de ce nom. Tu vas laisser beaucoup trop de place à la chance, et puis du coup ça va être vu que comme une demande d'attention, que comme une espèce de gesticulation absurde et ridicule. C'est hors de question qu'on me dise ça. Je dis pas que c'est une honte, hein, mais vraiment, pour moi, c'est pas possible. Je veux pas vivre ça, de me réveiller dans un lit d'hôpital et puis devoir faire face à mes parents et puis leur expliquer pourquoi. Et puis qu'ensuite, par derrière, des psys viennent me dire que finalement, si je suis pas mort, c'est que j'avais pas vraiment envie de mourir, et puis que si, que ça. Donc, ça reste vraiment une espèce d'outil de dernier recours, et si je dois le faire, quand je le ferai, ce sera radical.
Avec qui est-ce que vous en avez parlé de ça? De ces pensées-là?
Avec les relations amoureuses les plus longues, ça finit par apparaître. Pas forcément de manière carte sur table, mais plus en mode, ben voilà. Enfin, c'est des choses qui me traversent l'esprit, c'est des questions que je me pose. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que la réponse, elle est souvent assez... On sent qu'on a mis la personne mal à l'aise et puis que c'est un peu impromptu, cette question-là. Donc, soit on la pousse un petit peu de manière joueuse, et moi j'avais cette possibilité-là parfois en tant que étudiant en philosophie, on me laisse un peu la carte blanche pour aborder des conversations des fois un peu bizarres. On se dit, bon, c'est un philosophe, il a des drôles d'idées. Donc parfois, j'ai pu un peu triturer cette question avec d'autres personnes de ce point de vue-là. Mais je pense que le facteur vraiment déterminant là-dedans, c'est le fait que c'est absolument pas un sujet léger et que l'aborder dans la conversation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Qu'est-ce qui amène à un moment dans la conversation de dire, tu sais, en fait, je traverse une phase dépressive importante, j'ai envie peut-être de mettre fin à mes jours. C'est effectivement... une angoisse d'en arriver là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le reste de la conversation, comment ça va nous catégoriser, etc., c'est sûr. Mais je pense que le plus difficile pour moi, c'est d'introduire la question plutôt. C'est-à-dire que si on ne me tend pas une perche, en fait, je n'arrive pas à le faire et du coup, je me retrouve, j'ai l'impression coincé dans ce masque de bonhomie que je mets pour maintenir la conversation à flot. Mais je pense qu'au contraire, ce serait plutôt un soulagement de rencontrer des personnes avec qui ce sujet-là peut être abordé de manière assez naturelle, etc.
Quand vous parliez de suicide aux gens, qu'est-ce qu'on vous répondait?
Souvent les banalités usuelles, à savoir ça va passer, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas trouver ta voie. Moi aussi, à ton âge, j'avais des problèmes. Ou bien... Est-ce que tu as essayé de parler à quelqu'un? Tu sais, on fait des médicaments, très bien. L'autre versant, tu sais, un peu de yoga, de méditation, et puis boire beaucoup d'eau, et puis souvent ça va mieux. Puis c'est évident hein, que tout ça participe à une bonne hygiène de vie, et puis à un certain bien-être, mais fatalement ça tape à côté.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on vous demande alors, qu'on vous dise?
Qu'on partage plus ouvertement ce doute sur l'existence, parce que je pense que quand même, dans une certaine mesure, on l'a tous et toutes. Il y a toujours des moments où on se demande ce qu'on fait, où on n'est pas sûr d'avoir pris le bon chemin, où enfin, c'est quelque chose de très humain, je pense, de remettre des choses très profondément en question. Pour la plupart des gens, ça finit par passer, et puis ça se résout. Mais enfin, être un peu moins confronté à ce masque de la perfection sociale, voilà. J'ai réussi, j'ai mon petit appart, j'ai ma petite voiture, toi aussi tu peux le faire. Un peu moins ça, et puis un peu plus, mais tu sais, moi, tous les jours, quoi, je me lève le matin, puis je me dis, bon, moi, je me botte le cul pour aller bosser, mais en vrai, ça me saoule, je sais pas trop pourquoi je le fais et tout. Ouais, tu sais, moi j'ai eu 3 enfants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me demande si j'aurais pas mieux fait. Ou alors de faire les choses différemment, etc. Enfin bref, toutes ces remises en question comme ça m'aurait, je pense, énormément rassuré parce que d'une part, j'aurais pas eu l'impression d'être face à des personnes parfaites, ce qui, je pense, n'a jamais été le cas, mais par moments ça a pu m'apparaître comme tel. Et d'autre part, ben, simplement le fait de partager ça, c'est toutes ces imperfections de la vie toutes ces questions-là, ça m'aurait mis en confiance pour moi à parler des miennes et soulagé dans une certaine mesure. Et puis sinon, bah des questions. Comme vous m'en posez là, comme certaines personnes m'en posent ou m'en ont posé, mais vraiment, bah alors... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ton quotidien? Est-ce que tu travailles comme ça? Est-ce que tu sens que manger quelque chose t'aide? Est-ce que c'est difficile? Enfin, vraiment, de ressentir que la personne en face de moi, elle essaye de vraiment comprendre ce qui se passe et de se le représenter, de se le visualiser. Et pas juste de repousser ça comme une sorte de malédiction, une sorte de maladie, de peur que ça nous contamine. Des fois, c'est un peu ça le sentiment qu'on a à la fin, c'est de. On est vu comme un pestiféré, et puis soi-même, on a peur de rendre suicidaire ou en tout cas malheureux les gens qu'on fréquente. Et Dieu sait que c'est le cas. Enfin, il y a des personnes que j'ai fréquentées durant longtemps qui m'ont dit que c'était difficile, et que c'est épuisant et que c'est drainant d'avoir quelqu'un comme ça au quotidien. Et indéniablement, ça doit être difficile. Par derrière, on m'a reproché de dire des choses un peu trop trash et que de pas me rendre compte que ça affecte les gens autour de moi, que ça les rend malheureux. Et du coup, ben, y a ce double bind qui se met en place de ben, ok, il faut que j'en parle. Enfin, le seul moyen d'alléger un peu cette souffrance et cette douleur, c'est d'en parler avec des gens en qui j'ai confiance. Mais si j'en parle, ça fait souffrir mes proches. Ils sont tristes pour moi, ils se sentent impuissants ou impuissantes, etc. Alors il y a cette balance à trouver qui est évidemment extrêmement difficile, sinon impossible. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas encore trouvé cet équilibre. Je ne désespère pas. Un peu ironique de dire ça en tant que. Je viens parler ici de suicide, mais.
Pourquoi est-ce qu'il y a selon vous un tel tabou autour des maladies psychiques? Je veux dire, on a beaucoup plus de mal à dire oui, je fais une dépression que je suis atteinte de maladies X ou Y physiques.
Bon, je pense que globalement, il y a une culture de la force dans nos sociétés qui fait que c'est relativement honteux d'être faible, de tout à coup ne pas pouvoir, de ne pas avoir la force de. Et contrairement aux maladies physiques qui ont des symptômes évidents, concrètement, physiquement, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire, alors que la dépression, eh ben, on est sans arrêt face à un problème d'évaluation. Tu dis que tu es déprimé, mais moi aussi, j'ai déjà été triste dans ma vie. Et puis, ben, ça, c'est l'extérieur, mais personnellement aussi, c'est un travail d'arriver à se dire, ok, j'ai une condition psychique handicapante. Il y a une difficulté, ne serait-ce que pour le patient, quoi, de s'admettre qu'il y a une faiblesse, qu'il y a une incapacité. Et du coup, ces deux versants font que je pense que c'est difficilement abordable.
Est-ce que la société dans laquelle on évolue, notamment avec l'impact des réseaux sociaux et du marketing de soi constant, a un impact là-dessus?
Au contraire, moi personnellement, les réseaux sociaux, c'est une ressource gigantesque parce que je peux être en lien avec des personnes du monde entier qui peuvent avoir les mêmes troubles, les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Il y a des pages d'humour qui se créent autour de ces questions-là, la question du suicide, la question des médicaments dans les cas psychiatriques. Où ça crée autant de réseaux, un peu de solidarité qui font qu'on se sent relativement moins seul. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, ah, tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, sors, vois des gens, etc. Puis c'est difficile de faire comprendre que pour moi, en fait, c'est un bon compromis parce que ça me fait peur, ça me demande énormément d'énergie de me rendre dans des situations sociales. Mais ne pas en avoir du tout, c'est évidemment extrêmement difficile. Du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est des plateformes qui permettent une certaine sociabilité avec un degré de sécurité raisonnable. Donc, faut pas se perdre dedans, mais c'est un outil.
Est-ce que sur Internet, sur des forums, etc., vous vous êtes mis en contact avec des gens, voilà, qui se sentaient dans la même situation? Est-ce que vous les avez rencontrés ensuite dans la vraie vie, entre guillemets?
Ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Notamment aussi, tellement que ça puisse paraître sur Tinder. Puis, ben ouais, dans les pires moments, si tout à coup j'ai un match à un moment où je suis un peu dans le bad et puis que je suis pas d'humeur à faire semblant de rien, ben je vais être très cas, je vais dire écoute, là, maintenant j'ai plutôt envie de mourir et toi. Et ça arrive que. Bah, faut dire aussi que mon profil Tinder est assez clair sur le fait que je ne suis pas un businessman successful avec des posters motivationnels sur mes murs. Donc je pense qu'il y a aussi une certaine réceptivité avec les personnes avec qui je match. Mais du coup, on se met à parler. Ah oui, moi aussi, cool. Tu veux aller boire un verre et parler de mort, un de ces quatre. Et puis des fois, ça donne lieu à des rencontres, ouais. Alors, je ne me suis pas fait d'amitié sur cette base-là, non. Pas IRL, pas en vrai. Et par contre, avec des personnes plutôt aux États-Unis et puis en Inde, j'ai deux, trois contacts avec qui j'échange régulièrement. Soit quand ça va pas et puis je sais pas trop à qui parler, le fait que c'est quelqu'un que je connais d'Internet et du coup que je risque pas de rencontrer, c'est plus facile pour lui dire « Écoute, là, ça va vraiment pas, il s'est passé ci et ça ». Et puis, on peut en causer un peu. Ou alors, parce que tout à coup, on voit qu'une personne sur les réseaux sociaux commence à vraiment bader et puis à écrire des choses assez dark. Possibilité d'écrire « ça va particulièrement pas bien aujourd'hui, on dirait, tu vas en parler ». Puis ça se fait, de mon point de vue, beaucoup plus simplement que dans la vraie vie, où même parfois je vois que des personnes de mon entourage sont pas très bien, et même moi j'ai un peu de la peine à dire « dis donc, j'ai l'impression que ça va pas fort, tu vas en parler, etc. » Je sais même pas pourquoi, mais il y a des espèces de barrières comme ça.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à la personne qui peut-être écoute ce podcast et se trouve être au fond du bac?
Je sais pas, parce que je sais que dans ma situation, dans les moments où je suis au plus mal, justement, et où cette question du suicide, elle devient vraiment prégnante, il n'y a rien qui me touche, en fait. Et du coup, je ne sais pas s'il y a grand-chose que je puisse dire qui puisse toucher qui que ce soit. Mon point de vue, c'est... Rien n'est... déterminé, c'est-à-dire rien ne garantit que ça ira mieux, mais rien ne garantit que ça n'ira pas mieux. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est pas une honte d'avoir trop peur de mourir pour se suicider, c'est pas une honte de vouloir faire l'effort qu'il faut pour continuer à vivre, c'est pas une honte de pas avoir la force et puis de préférer mettre fin à ses jours. C'est ni rassurant ni aidant, je pense, mais vraiment, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre vie, et puis personne ne pourra faire le choix pour vous, quoi.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letemps.ch/podcast ou sur iTunes, Deezer ou SoundCloud. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Jonas Simonet. Si vous aimez Brise-Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours.